Bonjour à tous, Philippe Michel, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour la quatrième séance de notre cours sur la recherche sur la sécurité des patients. Cette semaine, nous allons nous pencher sur un domaine qui est à la fois peu connu, pas suffisamment connu, qui nécessite d'être beaucoup plus développé, puisqu'il s'agit de comprendre les causes survenues. Des accidents ou des presque incidents qui sont liés avec les soins. Ce cours fait donc suite à la précédente séance qui, elle, consistait à identifier un certain nombre de pistes en matière de mesure des risques associés aux soins. Alors à la fin de la dernière séance, j'avais pu répondre à peu près à toutes les questions, sauf à quatre. Je vais les reprendre très rapidement avant de démarrer ce cours. La première méthode était la première question était portée sur la différence entre des méthodes quantitatives comme l'audit et des méthodes qualitatives comme par exemple l'observation. Je pense que pour répondre précisément à cette question, il faudrait reprendre chacune des méthodes les unes après les autres. Certaines ont vocation à beaucoup plus identifier les événements indésirables, d'autres ont beaucoup plus vocation à identifier les erreurs et les facteurs contributifs dans la survenue de ces événements indésirables ou presque incidents. Et on reviendra lors de cette session sur l'ensemble des méthodes que je vous ai présentées la dernière fois pour justement discuter de leur intérêt pour la compréhension des causes. La deuxième question qui était posée était très spécifique, c'était en laboratoire hématologique, quelle méthode on peut utiliser? Donc, laboratoire d'hémato ou tout laboratoire de biologie, voire d'autres services médico-techniques comme la radio. Je pense que l'objectif dans ce type de service est sans doute moins d'identifier des événements indésirables graves au sens de leurs répercussions cliniques pour les patients, parce qu'elles sont relativement peu visibles pour les personnels de ces laboratoires, mais beaucoup plus de travailler sur les erreurs. Alors, les erreurs, comment peut-on travailler sur les erreurs? Il existe deux approches en gestion des risques, une approche a priori, une approche a posteriori. Je pense que les approches a priori des risques, les analyses a priori des risques, sont des méthodes très intéressantes dans ce type de structure. Alors, pour ce qui concerne les approches a posteriori, c'est vrai que quand on travaille sur les erreurs, elles sont rarement tracées, elles sont difficilement visibles dans les bases de données, et donc on va être amené à retravailler ou à focaliser notre méthode de travail sur des aspects d'interview ou d'observation. J'ajoute très simplement pour terminer que l'analyse des plaintes est extrêmement utile aussi, il ne faut pas les négliger. La troisième question que j'avais, c'était les soins infirmiers, comment peut-on travailler sur le risque associé aux soins infirmiers? Alors là, j'ai une remarque de principe à faire, c'est qu'on ne travaille pas sur les risques associés aux soins infirmiers, ni sur les risques associés aux médecins, ni sur les risques associés aux brancardistes, on travaille sur les risques associés aux soins de façon générale. Donc j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Simplement, j'aurais une précision quand même, qui est de dire que c'est pour un certain nombre, les soins infirmiers sont beaucoup moins centrés sur l'indication des soins et sur la prescription, mais beaucoup plus sur la réalisation. Et quand on est sur de la réalisation, et qu'on veut regarder spécifiquement certaines réalisations, comme par exemple le lavage des mains, on n'a pas d'autre méthode que l'observation. Enfin, la dernière question était faire des enquêtes avec des observateurs externes. Quel profil pour ces observateurs externes? Est-ce que c'est plutôt des méthodologistes ou est-ce que c'est plutôt des professionnels de terrain? Ma réponse, moi qui suis méthodologiste, c'est de dire le meilleur profil pour réaliser cette étude-là, c'est d'être un professionnel de terrain, celui qui connaît parfaitement ce qui se passe dans les lieux où il fait son recueil, sa collecte d'informations. Mais ce professionnel de terrain, il va falloir le former. Et c'est là où le méthodologiste a toute sa place, c'est-à-dire au moment avant la collecte de données pour former ces personnes, ces professionnels de terrain, pendant la collecte, pour suivre un petit peu ce qui se fait, et après également pour revoir un petit peu les cas, les observations, les interviews, les questionnaires, afin de s'assurer de la qualité des recueils qui ont été faits. Voilà, j'espère avoir répondu rapidement, mais de façon précise à ces quatre questions. Donc on va pouvoir maintenant commencer le cours et passer à la diapositive suivante. Alors, pour passer à la diapositive suivante, je m'excuse, mais moi-même, j'ai un souci. Je vais relancer le diaporama. Voilà. Diapositive suivante, donc l'introduction de cette session sur la compréhension des causes. Je le disais tout à l'heure, la compréhension des causes de la survenue d'événements indésirables ou de la survenue de presque incidents sont fondées sur des méthodes qui actuellement sont trop peu connues, trop peu diffusées. Le deuxième point d'introduction, ce sont des méthodes qui entrent dans le champ des approches réactives, à l'opposé des approches proactives que je citais tout à l'heure avec les analyses a priori des risques. Il s'agit effectivement d'un retour en arrière, de regarder sur ce qui s'est passé à la suite de la survenue d'une situation, d'un événement, dans un but de prévention. C'est une approche qui, par définition, est multidimensionnelle et on verra tout à l'heure pourquoi. Elle vise en tout cas à identifier des défauts qui existent au niveau et qui ont favorisé la survenue d'erreurs humaines. Et ces défauts, ils sont souvent dans le système. Toute l'orientation qui est donnée à cette compréhension des causes est focalisée sur la recherche de solutions. On ne fait pas d'analyse approfondie des causes pour rechercher des coupables, on fait des analyses approfondies des causes pour rechercher des solutions. Et donc, il s'agit d'une meilleure compréhension de la dynamique de survenue d'événements. Diapositive suivante. Les objectifs pédagogiques de cette session donc sont de connaître le principe de l'analyse des causes, de connaître les méthodes pertinentes à ce type d'analyse, et on verra qu'il y a deux approches. La plus fréquemment utilisée, c'est une approche d'événement individuel, d'un seul événement, l'analyse approfondie d'un événement, mais on peut être amené de temps en temps, il existe des méthodes pour analyser un groupe d'événements. Enfin, le troisième objectif, c'est de détailler trois méthodes avec des exemples concrets. Vous êtes maintenant habitué au format de ces sessions pédagogiques. Diapositive suivante. Cette session, donc, si on reprend le cercle de l'amélioration, intervient à l'étape 2, on va dire, hein, comprendre les causes, entre la mesure que l'on a vue à la dernière session et l'identification des solutions que l'on verra à la prochaine session. Diapositive suivante. Vous êtes habitué, il y a quelques questions avant de démarrer pour attirer votre attention sur un certain nombre de points qui seront développés lors de cette session. Un quiz, donc avec cinq questions cette fois-ci. La première question, donc merci d'essayer de répondre pendant qu'on lit les questions. La première, c'est les entretiens menés auprès des professionnels peuvent être utiles pour comprendre les causes d'événements indésirables, car petit A, vous pouvez utiliser à la fois des questions fermées et ouvertes. Petit B, elles peuvent saisir toute la sagesse des professionnels, la connaissance des professionnels de soins de première ligne. Petit C, elles peuvent être utilisées dans le contexte des pays en développement et en économie de transition. Petit D, toutes les réponses précédentes sont justes. Deuxième question. Laquelle de ces propositions n'est pas une méthode de collecte de données déclarative? Une méthode déclarative de collecte de données. Le sondage en ligne, l'examen des dossiers, des entretiens individuels, des groupes de discussion. Il y en a une seule qui n'est pas une méthode déclarative de collecte des données. Diapositive suivante. Pour la troisième question, lequel des énoncés suivants sur l'analyse des plaintes est faux? L'analyse des plaintes est utile pour identifier les facteurs contributifs, des facteurs latents. Les plaintes sont représentatives de l'ensemble des problèmes associés aux soins. Les plaintes ne sont pas faites dans un format standardisé. Et les plaintes fournissent des informations issues de plusieurs points de vue. Un seul énoncé est faux. Quatrième question. Lesquelles de ces méthodes peuvent être utiles pour étudier les causes d'événements indésirables? Les enquêtes auprès des professionnels, les systèmes de déclaration de signalement, les études de cohorte, l'ensemble des méthodes. Diapositive suivante pour la dernière question. Les systèmes de signalement des événements indésirables sont pertinents pour déceler des facteurs contributifs. Les systèmes de signalement sont la meilleure méthode pour comprendre les causes des événements indésirables. Les systèmes de signalement sont également appelés systèmes d'apprentissage et de signalement. Petit D, uniquement les réponses A et C sont justes. Donc cinq questions. J'espère qu'à la fin, vous aurez trouvé les bonnes réponses, peut-être pas maintenant, mais à la suite de ce que nous allons voir. Et ce que nous allons voir commence tout de suite sur le modèle très classique, c'est le seul qu'on verra, il y en a d'autres, entre guillemets plus modernes, comme le modèle de Rasmussen, qui sont utilisés pour dans le domaine de l'analyse approfondie des causes. On va rester sur ce modèle parce que déjà celui-ci, si on le maîtrise bien, on peut faire beaucoup de choses. Donc il a été élaboré par un psychologue, James Reason, qui intervient toujours dans des colloques internationaux, qui est un grand monsieur, et qui nous a dit, au vu de ses observations faites dans d'autres milieux professionnels que la santé, nous a dit que finalement, tout système comprend de façon explicite ou implicite ce qu'on appelle des barrières de défense. C'est-à-dire que tout professionnel, dans sa pratique quotidienne, met en place des verrous de sécurité, si on peut employer un terme plus vulgaire, entre guillemets, toute équipe a réfléchi et mis en place des barrières de défense. Que ça soit implicite, parce qu'on le fait sans y penser, on le fait de façon naturelle, parce qu'on est bon professionnel, soit de façon explicite dans le cadre d'une démarche structurée, notamment en gestion des risques. Ce que nous dit James Reason, c'est que dans ces plaques qui représentent les barrières de défense, il y a des trous qui sont des zones de vulnérabilité. Et si ces trous se mettent en alignement, comme on le voit sur cette diapositive, à la fin, la probabilité d'avoir un événement indésirable est importante. Alors ces plaques, c'est celles-ci qu'il faut qu'on va étudier lors de l'analyse approfondie des causes. Quand un événement indésirable est survenu, on va se pencher sur des événements qui sont associés aux patients. Le degré de sévérité, le degré de complexité de sa maladie, également son comportement, le comportement des proches de ce patient, qu'est-ce qui a pu éventuellement favoriser la survie d'un événement indésirable. On va se pencher sur la seconde plaque, les soignants. Les soignants, est-ce qu'il y a des facteurs individuels aux soignants qui ont pu favoriser les erreurs humaines? Et parmi les exemples, on a la qualification des professionnels, leurs connaissances théoriques ou techniques, leurs aptitudes, leurs compétences, leur disposition physique et mentale, par exemple la fatigue, la maladie, le stress, la motivation, le problème de l'échange d'informations entre ce professionnel-là et le patient, entre le professionnel et d'autres professionnels. Ensuite, nous allons nous intéresser à la plaque qui concerne l'équipe. Et derrière le mot équipe, il y a aussi plusieurs facteurs contributifs qui sont derrière cette plaque-là. La compétence de l'équipe, mobilisée, oui, non, accessible, oui, non. Tous les défauts de communication orale ou écrite, tous les problèmes de collaboration entre les différents professionnels, les problèmes de conflit, de mauvaise ambiance entre les professionnels, et les problèmes de supervision. Il s'agit d'une plaque importante, souvent mobilisée, même si toutes les études épidémiologiques montrent que la plaque où il y a le plus de vulnérabilité, c'est le patient lui-même de par sa situation clinique. Mais cette plaque-là, qui est associée à des défauts concernant l'équipe, est quelque chose qui est extrêmement important à voir de très très près. Ensuite, il y a une plaque sur les tâches. Derrière les tâches, qu'est-ce qu'on entend? L'existence de protocoles, le retard dans la prestation ou la programmation des examens, par exemple, le défaut d'accessibilité ou de disponibilité d'informations en temps voulu, la difficulté à rechercher des informations auprès d'un autre professionnel de santé, la planification des tâches est également un facteur contributif. Ce sont des exemples que je déroule au fur et à mesure qui permettent de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces plaques. Pour l'environnement, on a évidemment les locaux, les équipements, les fournitures, qu'elles soient disponibles, défectueuses, mal utilisées. Les aspects de support d'information, de notices d'utilisation de matériel sont également là. Les conditions de travail, très importantes dans certains milieux, comme par exemple le travail dans les urgences, mais pas uniquement. L'interruption des tâches par le téléphone, le lieu de passage, les horaires de travail, l'ergonomie et la charge de travail. Tout ça, ça fait partie de la plaque tâches. D'ailleurs, le mot environnement, il y a d'autres, voilà, je ne vais pas les détailler tous, hein, parce que c'est quand même assez important. Je voudrais simplement vous inciter dans la littérature, aller voir le contenu et l'auteur qui a le plus publié là-dessus, avec la littérature sans doute la plus accessible, c'est Charles Vincent, qui a élaboré un modèle très complet. Et dans son équipe, des British Review Forms ont été élaborés, on en reparlera tout à l'heure, qui permettent de retrouver l'ensemble de ces informations. Une autre façon, diapositive suivante, de présenter et de représenter pardon, ces facteurs contributifs, c'est une représentation en entonnoir. Alors, c'est exactement les mêmes informations, mais cette présentation est certainement intéressante dans le sens où elle montre bien qu'on part d'une vision très extensive du système, on est au niveau du système de santé dans son ensemble, et puis progressivement, on va resserrer notre champ de vision sur le patient et les soignants qui étaient à l'origine de la survenue de cet événement. Cette vision en entonnoir nous permet également de bien saisir que quand on fait une analyse approfondie des causes, si on ne met autour de la table que les soignants, on aura une vision qui est celle du fond de l'entonnoir. Et que si on veut avoir une vision un petit peu plus large, il va falloir intégrer des personnes qui sont en mesure de nous apporter des informations sur l'environnement de travail, sur l'organisation du travail, sur l'hôpital, sur le système de santé. Diapositive suivante. Maintenant, on parle d'analyse approfondie des causes, mais pourquoi? En fait, il y a beaucoup de raisons qu'il est utile de rappeler. La première raison, c'est d'abord pour le patient. L'analyse approfondie des causes rentre dans les méthodes d'amélioration continue, et ces méthodes d'amélioration continue, sur le champ en particulier de la gestion des risques, ne peuvent qu'accroître la confiance et la satisfaction des patients. Deuxième raison, c'est pour les professionnels d'équipe, c'est un outil de communication, un outil de réflexion collective, ça c'est extrêmement précieux comme motivation, le rôle fédérateur de ces analyses quand elles sont bien conduites. Puisque les erreurs deviennent source d'apprentissage, c'est-à-dire que toute personne qui est confrontée à la survenue d'un événement indésirable est une personne qui va souffrir. Il y a le patient, mais souvent on parle de la deuxième victime, qui est le professionnel de santé lui-même. Une analyse des causes, quand elle est bien conduite, permet de déculpabiliser les choses en montrant que ce professionnel-là a été dans un contexte qui a favorisé la survenue et que on va s'intéresser en termes de mesures correctrices sur les aspects plus systémiques et on ne va pas s'orienter vers une personne avec derrière une conduite habituelle qui est celui de la désignation et éventuellement de la sanction. Pour l'établissement, l'analyse approfondie des causes, c'est extrêmement utile dans le sens où ça va rendre cet établissement, cette organisation de santé plus performante, plus sûre, en augmentant la résilience, le fameux terme de résilience aux erreurs humaines, c'est-à-dire la capacité des équipes à anticiper ou à récupérer des erreurs qui sont réalisées, et donc de limiter l'incidence de ces erreurs et de ces événements indésirables. Diapositive suivante. Quelques pièges, il y en a, évidemment, dans l'analyse approfondie des causes. Le premier piège, c'est s'arrêter à la première histoire, à la première partie de l'histoire, à la chose qui est absolument évidente. On sait, l'infirmière a injecté par voie intrathécale un produit qu'elle aurait dû injecter par une autre voie. C'est une erreur évidente. Si on le savait avant même de commencer l'analyse, si on s'arrête là, on n'a rien compris à l'analyse approfondie des causes. Le second piège, c'est réaliser l'analyse sans disposer d'une chronologie précise des faits. On ne peut pas faire d'analyse approfondie sans faire une étude très précise de la chronologie précise des faits. C'est la seule façon de faire. Le troisième piège, c'est de chercher un coupable, de chercher des responsables, de juger ceux qui font des erreurs et de les mettre en cause personnellement. Ça, on l'a déjà dit et on le répète, c'est absolument contre-productif dans le développement d'une culture de sécurité, dans le développement de la sécurité des patients. Le quatrième piège, c'est de ne pas prendre de décision de prévention à l'issue de l'analyse ou de rechercher des solutions trop hâtivement. Ce qui pêche actuellement dans les organisations commencent à se mettre à l'analyse approfondie des causes, c'est la phase d'élaboration du plan d'action. Si on ne met pas de plan d'action, ça n'était pas la peine de faire une analyse approfondie des causes. Et si on fait un plan d'action, il faut correctement le faire. Il y a des outils qui sont en train d'être développés. Il faut savoir aussi les utiliser. Ce ne sont pas des outils d'analyse approfondie, ce sont des outils qui permettent de structurer la rédaction des plans d'action. Et le dernier piège, qui est assez fréquent, notamment dans les revues de mortalité et de morbidité, c'est la dérive académique. C'est de se focaliser sur des problèmes très particuliers, des problèmes très rares, qui en eux-mêmes sont intellectuellement très intéressants, qui valorisent l'équipe sur son du point de vue académique, mais qui, en termes de capacité organisationnelle de prévenir les événements suivants, n'ont aucune incidence. Diapositive suivante. On passe là à la troisième partie, pardon, de cette session, qui est maintenant quelles sources d'informations on peut utiliser pour faire l'analyse approfondie des causes. Vous avez déjà vu cette diapositive la dernière fois, les quatre méthodes, les quatre grands groupes de méthodes, l'analyse des dossiers des patients, l'utilisation des systèmes de signalement et d'apprentissage, l'observation et l'interview et les bases de données informatisées. L'analyse approfondie des causes nécessite d'avoir une information assez précise, puisque je disais à la diapositive précédente qu'il fallait faire notamment une chronologie très précise des faits, qui est rarement disponible dans les bases de données informatisées, un peu plus souvent dans les dossiers, mais c'est quand même pas très précis. Les systèmes de signalement apportent des informations éventuellement sur ces aspects-là, ça dépend de la façon de structurer l'information qui est demandée dans ces systèmes. La méthode qui apparaît la plus complète pour l'analyse des causes, c'est toutes les méthodes qui rentrent dans le cadre des observations et des interviews. Reprenons les méthodes que je vous avais présentées la dernière fois, c'est-à-dire reprenons l'ensemble des méthodes qui existent pour collecter de l'information sur les risques associés aux soins. L'utilisation des données qui sont collectées en routine pour d'autres raisons que la gestion des risques, donc les dossiers des patients, les bases administratives, les autres bases de données, contiennent peu d'informations sur les erreurs et les facteurs contributifs. Alors, dans nos pratiques cliniques, de plus en plus, nous développons des méthodes un petit peu spécifiques, comme l'analyse des autopsies, mais surtout les revues de mortalité et de morbidité, qui, elles, peuvent nous apporter des informations plus pertinentes que les trois autres méthodes de collecte de données en routine. Diapositive suivante. Donc, nous disions la dernière fois que pour avoir de l'information sur les risques associés aux soins, on pouvait avoir une approche passive de surveillance fondée sur les systèmes de signalement et sur les plaintes et contentieux. Ces systèmes signalement, plaintes et contentieux apportent de l'information sur les erreurs et sur les facteurs contributifs quand elles sont bien utilisées, bien structurées dans les organisations de santé. Pour les méthodes de collecte active, collecte systématique et les méthodes quantitatives, comme la revue de dossier, apportent un peu d'information, mais elle est trop souvent partielle, ponctuelle, avec beaucoup de points d'interrogation entre les faits qui sont cités dans la revue de dossier, ce qui fait que souvent, quand on fait une analyse approfondie à partir de dossier, on élabore soi-même une histoire, on reconstitue les défauts d'information et on a beaucoup de chances de se tromper en faisant cette reconstitution. Les études de cohorte apportent plus d'informations puisqu'on suit le déroulement des événements. L'utilisation des triggers et des audits, là encore, font appel souvent à la traçabilité qui existe dans les dossiers et donc sont moins intéressantes que les cohortes. Pour les méthodes qualitatives, on le disait tout à l'heure, l'observation par les professionnels de santé, les enregistrements apportent énormément d'informations, surtout sur les erreurs. Mais si on fait les choses correctement, de façon plus large, on peut également avoir d'informations sur les facteurs contributifs, les causes profondes de survenue des événements. Dans les méthodes de collecte non systématiques, on a les visites hiérarchiques de sécurité qui ne sont pas faites véritablement pour identifier les erreurs et les facteurs contributifs. Les focus groupes, eux, peuvent être utilisés. On peut avoir de l'information en fonction, évidemment, des sujets qui sont abordés en focus group. Les analyses approfondies de cause figurent ici dans le sens où il s'agit d'une collecte non systématique à propos d'un événement ou d'un petit groupe d'événements. C'est une méthode qui est par nature pertinente pour la connaissance des erreurs et des facteurs contributifs. Enfin, les scénarios et simulations sont également contributifs, mais dans une moindre mesure. Il faudrait rentrer un petit peu dans le détail de chacune de ces méthodes, évidemment, pour pouvoir être plus précis. Je rappelle quand même que ces sessions sont une façon de brosser assez rapidement un tableau. Diapositive suivante. Maintenant, voyons les méthodes d'analyse des causes d'un événement individuel, d'un seul cas, d'un seul événement indésirable. Je vais vous en parler de trois. Une liste de questions pour les cliniciens, la revue de mortalité et de morbidité, et les méthodes d'analyse approfondie qu'on appelle root cause analysis. La liste de questions pour les cliniciens, on va la voir tout de suite après, ça répond à un besoin très concret, c'est que les cliniciens, au sens large du terme, les professionnels de santé, n'ont pas ni le temps, ni la capacité pour chaque événement indésirable se poser, de prendre un temps dédié spécifique pour l'analyse approfondie. Donc déjà, si on peut mettre à leur disposition des petits outils très très simples, ça peut être utile. La revue de mortalité et de morbidité, on en verra aussi par la suite, c'est pas en soi une méthode d'analyse approfondie, ça ne constitue pas en soi une méthode, c'est plutôt une modalité d'organisation de l'analyse approfondie des causes, qui le plus souvent est restreinte aux professionnels d'une seule unité de soins. Et en cela, je vous rappelle la diapositive en entonnoir, en cela on aura des informations sur les erreurs, certainement, sur les facteurs contributifs, oui, mais uniquement pour les facteurs contributifs qui sont liés aux professionnels de cette unité de soins et à l'organisation de l'équipe. Donc cette méthode est plus adaptée pour identifier des facteurs contributifs simples que j'appelle proximaux, c'est-à-dire très proches de la survenue de l'événement indésirable. Troisième type de méthode, donc root cause analysis en anglais, méthode d'analyse approfondie, qui sont plutôt manipulées, elles, par des gestionnaires de risque, avec une méthode qui est certainement la plus connue, qui s'appelle la méthode ALARM, développée par Charles Vincent. Donc si on passe à la première diapositive suivante, méthode, on pourrait se dire quasiment c'est pas une méthode, c'est plutôt une liste de questionnements, et je vous propose un outil que nous avons développé au CECA, là, dans mon département, qui permet à chaque professionnel de s'interroger dans le cadre de sa pratique. Je suis en face d'un événement, je me dis tiens, est-ce que c'est pas un problème? Et donc voilà les questions qu'il faut que je me pose. Il y a 30 questions que le professionnel peut utiliser, il peut passer au travers de ces questions assez rapidement. C'est une méthode qui lui permet de caractériser le lien entre cet événement et les soins, la sévérité de cet événement, le caractère évitable de cet événement et les facteurs qui ont pu y contribuer. Une autre façon assez simple, si on veut aider des cliniciens à se poser des questions, c'est de leur dire tout simplement, quand vous êtes en face d'un événement indésirable que vous avez identifié, qui pose un problème, posez-vous 5 fois de suite la question « Pourquoi ?» et vous arriverez certainement aux causes contributives les plus profondes. Donc la méthode, on va dire, des 5 pourquoi. 5 pourquoi de suite. Ce patient a fait une hémorragie. Pourquoi? Parce qu'il avait un anticoagulant qui était surdosé. Pourquoi avait-il un anticoagulant surdosé? Parce qu'on n'avait pas fait le suivi de son taux sanguin de l'INR. Pourquoi n'avait-on pas fait ce suivi du taux sanguin de l'INR? Parce que le patient n'avait pas été faire ce contrôle-là. Pourquoi le patient n'avait pas été faire ce contrôle-là? Eh bien, parce que effectivement, il n'y a pas de traçabilité et de relance. Voilà. Vous voyez un petit peu le type de questionnement qui peut être utile et facilité. La limite, c'est que nous n'avons jamais, avec ce type de méthode très simple, une vision très globale. On a simplement une aide pour le clinicien à essayer de comprendre que derrière une erreur, il y a des problèmes systémiques plus importants. Et donc, au travers de ce questionnement, de l'inciter à utiliser une des méthodes suivantes, diapositive suivante, comme la revue de mortalité et de morbidité. Alors, sa définition de la revue de mortalité et de morbidité, c'est une analyse qui est collective. Une analyse de revue de mortalité et de morbidité n'est jamais faite par un professionnel tout seul, ça n'a pas de sens. C'est une analyse collective à plusieurs professionnels, ces professionnels ayant été concernés par la survenue de l'événement. C'est une analyse qui est rétrospective, ça veut dire que l'événement est déjà survenu et on va se retourner vers cet événement et essayer de comprendre pourquoi il est survenu. C'est enfin une analyse qui est systémique dans le sens où on va étudier les facteurs du système, tous les facteurs du système qui permettent d'expliquer la survenue de cet événement. Donc, cette analyse a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins. Donc, c'est une démarche qui permet de tirer profit de l'analyse des situations qui se sont déjà produites pour apprendre et pour comprendre et pour mettre en place des actions. C'est en aucun cas des méthodes pour rechercher un responsable et un coupable. Laissons à la justice, aux juges d'instruction, aux experts médico-légaux le soin de faire ça. Ça n'a aucun rapport avec la gestion des risques. Diapositive suivante. Les trois temps de la méthode revue de mortalité et de morbidité sont bien décrits. Il y a un temps de préparation avant l'analyse collective, la réunion. Donc, regroupement des documents utiles, compréhension de l'événement, de la chronologie des faits. Le deuxième temps, c'est celui de l'analyse dans une réunion qui comprend un certain nombre de règles en termes d'organisation et de conduite. Et enfin, une synthèse et la rédaction de plan d'action. On ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Simplement, pour les lecteurs de langue française, je vous incite fortement à aller sur le site de la Haute Autorité de Santé qui a produit un guide en juin 2009 qui s'appelle « Évaluation et amélioration des pratiques, revue de mortalité et de morbidité » qui est très bien fait, très facile à utiliser et très complet. Ce guide est disponible gratuitement sur le site internet. Vous avez l'adresse complète pour y accéder. Diapositive suivante. Maintenant, les méthodes, la troisième type de méthode, ce sont les méthodes les plus complètes, les méthodes d'analyse approfondie des causes, qui, elles, ne sont pas faites au sein d'un service avec entre cliniciens, entre professionnels de santé, mais qui sont beaucoup plus des approches qui sont mises en œuvre par un gestionnaire de risque dans un établissement de santé au niveau institutionnel, voire inter-institutionnel, comme on commence à le faire en France au niveau d'une région ou d'un territoire géographique. Ces méthodes d'analyse approfondie des causes, il en existe plusieurs, je vous ai cité ici les plus fréquentes, les plus connues, donc celle de la méthode Alarme, la méthode de la Joint Commission aux États-Unis, donc la méthode une méthode qui est assez proche de la méthode Alarme, pas dans la conduite, mais dans les outils utilisés qui s'appellent les British Review Forms, qui est également, donc je le disais en début de réunion, de session qui est développée dans l'équipe du professeur Vincent. Et enfin, à nouveau, on revient aux États-Unis, l'outil de la Veterans Administration, qui est aussi un outil qui a été et qui est très très utilisé. Alors, diapositive suivante, quand on veut utiliser un outil, comme d'habitude, il faut connaître ses forces et faiblesses. Et là, nous avons fait ici dans l'équipe une analyse des forces et faiblesses de ces outils. Ça ne prétend pas à être la vérité vraie puisque c'est une analyse interne dans l'équipe, mais je trouve qu'elle est assez intéressante puisqu'elle montre que quand on veut utiliser un outil d'analyse approfondie, il faut connaître l'ensemble des usages qui peut être fait avec ses forces et ses faiblesses. Donc nous, on avait analysé le type d'événement qui peut être abordé au travers de chacune de ces méthodes, les méthodes d'investigation, l'analyse chronologique, est-ce qu'elle est comprise dans la méthode ou pas, la recherche des causes immédiates des erreurs actives, est-ce qu'elle est réalisée de façon performante par l'outil ou pas. Et vous voyez que là, le British Review Form semble plus fort que les autres sur ce point-là. L'analyse, la recherche des facteurs contributifs, là c'est plutôt la méthode Alarme et la méthode de la Veterans Administration, et la hiérarchisation des facteurs, qui est l'étape qui précède juste la rédaction des plans d'action. Diapositive suivante. Maintenant, et on ira très vite parce que c'est pas le centre de cette session, il existe des méthodes d'analyse approfondie des causes, non pas d'un seul événement, mais d'un groupe d'événements. Et là, je citerai ce qui est dans la littérature appelé Aggregated Root Cause Analysis. Là où on prend plusieurs événements de même type, et au niveau d'une institution, d'une organisation de santé, on se pose collectivement la question de quelles sont les causes les plus fréquentes qui ont pu arriver à ce groupe d'événements qui sont de même nature. Deuxième méthode, l'analyse des plaintes et des contentieux. Les assureurs notamment produisent des rapports tous les ans qui permettent au niveau de chaque type d'événement indésirable de décrire les erreurs ou les facteurs contributifs les plus fréquemment retrouvés. Enfin, l'analyse des bases de données, comme les systèmes de signalement, peuvent donner des informations agrégées sur tel ou tel type d'événement indésirable. Diapositive suivante. Maintenant, nous allons rentrer dans la troisième et dernière partie de cette session, qui est de voir trois méthodes utilisées. Alors, la première, c'est des enquêtes auprès des professionnels. Ses avantages, c'est de déceler des erreurs actives, de déceler des facteurs contributifs, et elle s'est particulièrement utile, évidemment, quand des données, les autres types de données sont indisponibles, comme les données de traçabilité dans les dossiers, ou bien des données qui figurent dans les bases de données. C'est ce qu'on peut appeler une méthode qui permet de profiter de la sagesse du grand nombre des professionnels, parce que les professionnels ont beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le cadre de leur activité. C'est une approche, selon la façon de la mettre en œuvre, qui peut être exhaustive dans la recherche des erreurs ou des facteurs contributifs. Les faiblesses de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle le biais de rétrospection, qui est très fréquent et difficile à éviter, puisque nous sommes sur des méthodes rétrospectives, nous nous retournons en arrière sur l'événement, et nous savons en analysant l'événement qu'il y a eu un mauvais résultat. Donc forcément, s'il y a eu un mauvais résultat, on a une recherche et des conclusions sur des mauvais soins qui interviennent de façon plus facile et parfois erronée. Parce que si on regardait en temps réel ce qui s'est passé, ça n'est pas toujours le cas. On reconstruit une réalité, en d'autres termes, pour faire attention à cette faiblesse. L'autre difficulté, c'est qu'elle nécessite la participation de tous les acteurs. Si tous les acteurs ne sont pas autour de la table ou ne sont pas consultés, on n'aura pas toute l'information et à nouveau, on va reconstituer une histoire et peut-être en faisant des erreurs. Diapositive suivante. Là, je souhaitais ne pas quitter une étude qu'on avait présentée la dernière fois, qui a compris, donc l'étude française sur les événements indésirables, l'étude nationale a compris une phase qui portait sur l'analyse approfondie des causes, avec un outil que nous avions développé et validé. Diapositive suivante. Et là, je vais vous présenter ce qui peut ressortir d'une analyse dans une cohorte d'une analyse approfondie des causes. Une histoire toute simple, comme il y en a des dizaines. Mais c'est l'intérêt de vous présenter ça plutôt que la méthode est de vous dire voilà finalement la façon dont on peut présenter les résultats d'une analyse approfondie des causes. Donc il s'agit d'une parturiente de 22 ans qui est suivie dans une maternité d'une ville, disons, d'une ville A, qui s'appelle A. Et c'est dans cette maternité qu'elle a sa consultation pré-anesthésique. Mais pour des raisons personnelles, pour se rapprocher de sa mère, elle souhaite accoucher dans une autre ville, la ville B. Et pour cela, elle a ses deux dernières consultations en fin de grossesse avec l'obstétricien de cette maternité, de la ville B, qui a demandé en vain, sans l'avoir, le dossier à la maternité de la ville A. Elle est admise un jeudi à minuit et à 9h du matin, avec un col dilaté à 4-5 cm, nous trouvons une patiente qui demande de façon insistante une péridurale et à 9h, donc 9h après son arrivée, un anesthésiste qui est appelé. La positive suivante, cet anesthésiste à 9h refuse en disant « j'ai pas le dossier, je ne connais pas les résultats de la visite de la consultation pré-anesthésique, je ne fais pas cette péridurale ». Donc la maternité est contactée à nouveau en urgence et la maternité répond que le secrétariat n'ouvre qu'à 11h. Donc à 11h, on retéléphone à la maternité de la maternité A qui répond que le dossier est inaccessible puisque ce dossier est dans des cartons, la maternité est en train de déménager. À 12h25, on se situe dans une période que tout professionnel de santé a connue, une période difficile où là on sent que la situation bascule, c'est-à-dire que l'obstétricien s'en mêle, va demander à un autre anesthésiste, l'anesthésiste numéro 2, de réaliser la péridurale sans dossier, en lui disant de façon un peu énervée que s'il n'y a pas de péridurale, il y a un risque de césarienne. La patiente contribue elle aussi à l'énervement dans le sens où évidemment elle est agitée, hyperalgique, elle a une dilatation en plus qui est stagnante depuis 2h à 7 cm. Et donc l'anesthésiste 2 prend la responsabilité de poser la péridurale dans ce contexte d'agitation et de désorganisation après quand même avoir vérifié le bilan d'hémostase qui a été fait en urgence. À 14h30, tout se normalise, se tranquillise, l'accouchement a lieu très correctement par voie basse. Diapositive suivante. Le lendemain matin, cependant, fièvre et céphalée, l'obstétricien craint une fièvre puerpérale, prescrit 2 grammes d'augmentin. L'anesthésiste, à la fin de la matinée, au sortir du bloc, arrive, fait une ponction lombaire, parce qu'il se pose quand même des questions, il savait ce qui s'était passé la veille. On trouve un liquide trouble, mais pas de germe à la culture, l'augmentin était passé par là. Cette patiente est transférée en réanimation pour une méningite, et elle sort ensuite sans séquelles 15 jours après. Voilà une histoire qui peut être décrite à la suite de l'analyse approfondie des causes de la façon suivante. On a donc un événement indésirable qui est la méningite. Il y a eu des erreurs actives. Les erreurs actives, c'est le non-respect des règles d'hygiène, et ça, ça n'est pas dans le dossier, il faut discuter, il faut interviewer les professionnels. Non-respect des règles d'hygiène et le retard dans la prise en charge. Mais derrière ces erreurs actives, il y a plusieurs facteurs contributifs. Là aussi, c'est l'intérêt de les connaître. Sans connaissance de ces facteurs contributifs, on n'arrivera pas à prévenir le prochain événement. Manque d'accessibilité des informations médicales. Défaut de communication entre la parturiente et l'équipe de soins. Je vous rappelle qu'il a fallu 9 heures, entre minuit et 9 heures du matin, pour qu'on entende enfin la plainte de la patiente, la demande de la patiente d'une péridurale. La planification donc d'une péridurale qui n'était pas adaptée. Ce que nous a appris aussi l'analyse approfondie, c'est qu'il y avait un climat tendu entre le premier anesthésiste et l'obstétricien. C'est-à-dire que l'anesthésiste qui a refusé de faire la péridurale l'a fait dans un contexte aussi de mésentente avec l'obstétricien. Ensuite, on a une mauvaise disposition mentale des professionnels qui est favorisée par l'agitation de la patiente. Un personnel intérimaire, là aussi l'analyse approfondie a permis de le mettre en évidence, ça n'était écrit nulle part, un professionnel intérimaire en nombre important et mal encadré, et enfin une absence de procédure d'accueil et d'hygiène pour les accompagnants, parce que là aussi on a appris que c'est le mari qui tenait la femme au moment de la péridurale et qu'il était en vêtements de ville et qui tenait sa femme avec ses mains sans protection. Voilà un petit peu la façon de présenter une histoire avec son analyse approfondie. Diapositive suivante. Deuxième type d'étude, l'analyse des réclamations. Ça, c'est une méthode qui est intéressante et qu'on va décrire au travers d'un article. Une méthode qui permet de déceler des erreurs latentes, puisque quand il y a une réclamation ou une plainte, il y a une analyse qui est faite. Il y a souvent plusieurs points de vue qui sont présentés, celui des patients, celui des professionnels de santé, celui des avocats. Il y a des inconvénients. Le biais de rétrospection, on le retrouve ici. Le biais des déclarations, parce qu'on se situe dans un cadre où les professionnels notamment vont chercher à se couvrir. Et on a aussi la limite du fait que l'analyse des plaintes et des réclamations par les sociétés savantes, les sociétés d'assurance, ne sont pas faites de façon standardisées, utilisent des sources de données qui elles-mêmes ne sont pas standardisées, donc difficile après d'en tirer des informations qui sont facilement agrégables et utilisables pour mettre en place des plans d'action. Mais c'est de plus en plus réalisé. Donc un article là qui est paru dans les Annales of Internal Medicine en 2006, donc que je vous décris rapidement. L'objectif donc c'était de développer un cadre d'analyse des défauts et des retards de diagnostic en médecine ambulatoire, de comprendre les causes et d'identifier les opportunités pour la prévention. Et cette étude-là a été faite à partir d'une revue rétrospective des plaintes déposées pour défaut ou retard de diagnostic en médecine ambulatoire, donc auprès de sociétés d'assurance. Diapositive suivante. En effet, il y avait 4 compagnies d'assurance qui ont été contactées pour participer à cette revue des dossiers de plaintes qui représentaient donc un nombre important de médecins généralistes et d'hôpitaux. Des dossiers de 429 plaintes ont été tirés au sort pour des patients qui sont issus de services d'urgence ou d'un autre site ambulatoire, comme les cabinets de médecine ou de chirurgie ambulatoire, les laboratoires, les cabinets de radiologie, entre 1984 et 2004, qui représentaient 307 sites de consultation différents, donc une très très grosse étude quand même. Diapositive suivante. La collecte des données a été réalisée par des médecins investigateurs qui ont été formés à la revue de dossier, à l'utilisation des questionnaires et outils de l'étude et au respect de la confidentialité. Le recueil des données administratives a été fait par le professionnel des compagnies d'assurance et le recueil des informations de nature médicale, l'analyse approfondie, a été fait par ces médecins investigateurs. Diapositive suivante. Donc avec, d'une part, une analyse de la sévérité des causes possibles de ces retards diagnostiques, Donc à l'échelle d'une en utilisant une échelle, qui s'appelle une échelle de Likert, c'est-à-dire qu'on positionne la réponse sur de 1 à 9, 1 représentant uniquement une atteinte psychologique, et 9 présentant la situation de décès. L'étape 2 étant l'appréciation du caractère lié à un problème diagnostique, puisque c'était l'objet de l'étude, et l'étape 3, diapositive suivante, était l'analyse de la chronologie des faits avec une appréciation de la défaillance dans le processus sur une échelle de Likert à 5 points en disant il y a une défaillance très improbable ou il y a très probablement au moins une défaillance. Diapositive suivante. Les résultats, 59% des plaintes ont été considérées comme des événements indésirables associés à des erreurs diagnostiques. Dans 59%, il s'agissait de conséquences graves. Sur les 180 dossiers, il y en avait 106. Dans 30%, c'était associé à un dossier. Dans 59%, c'était des erreurs de diagnostic de cancer. 30% associé à un dossier, vous voyez bien que quand on analyse des dossiers qui sont dans le cadre de plaintes, évidemment, on a une vision non représentative de la totalité des événements indésirables. On est sur les cas les plus graves. Diapositive suivante. Les défaillances les plus fréquentes, donc dans ces retards ou ces défauts diagnostiques, c'est le défaut de test approprié, d'abord. Ensuite, le défaut de plan de suivi du résultat de ces tests. Ensuite, un défaut de recherche des antécédents ou d'examen clinique. Et enfin, un défaut dans l'interprétation des tests. Le nombre médian de défauts était de 3 par dossier. Diapositive suivante. Derrière ces erreurs, il y avait des facteurs contributifs, des problèmes, des défauts, des défaillances dans le jugement clinique, dans la compétence. Des médecins, des défauts de vigilance ou de mémoire, 59%, des défauts de connaissance, ensuite des facteurs liés aux patients et enfin des facteurs liés à la transmission d'informations. Voilà. Donc les diapositives suivantes, la principale conclusion de cette étude, c'est que les événements indésirables associés à des erreurs diagnostiques et conduisant à des plaintes sont le résultat de multiples défaillances. C'est vrai dans cette étude, c'est vrai dans toutes les études que l'on fait. Il y a toujours de multiples défaillances qui impliquent des facteurs individuels, des facteurs systémiques. Et la prise en compte des principales erreurs et facteurs contributifs, c'est une aide à la priorisation des stratégies de prévention. Une étude comme ça, qui est de nature épidémiologique, ensuite devrait être suivie d'un plan d'action qui est proposé aux établissements, aux structures qui sont concernées par ce type d'études. Ça n'est pas toujours le cas. Et on revient sur l'un des pièges de l'analyse approfondie et de toute étude dans le domaine de la gestion des risques associés aux soins. Diapositive suivante. Les leçons et les conseils des auteurs sur cette étude, est-ce qu'il existerait un point d'amélioration de l'étude? Oui, et c'est souvent une limite que l'on fait pour beaucoup de nos études. On a des outils de collecte qui sont trop longs, qui incluent des informations qui finalement ne s'avèrent pas être utiles. On manque d'efficacité dans la collecte des données. Attention, quand on met en place un système d'information, quel qu'il soit, à avoir un objectif bien clair et à centrer le recueil, la collecte des données sur les informations dont on a besoin pour répondre à cet objectif particulier. On ne fait pas tout avec un système d'information. Quel qu'il soit, que ce soit une enquête épidémiologique, un système de signalement, quoi que ce soit. Est-ce que ce type d'étude serait faisable, acceptable dans les pays? Alors là, ça dépend évidemment de l'existence d'une base de données accessible sur les plaintes et ça dépend de la qualité des données. Diapositive suivante, le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est les systèmes de signalement et d'apprentissage. Leur intérêt pour la compréhension des causes. Ça permet de déceler des facteurs contributifs si le système de signalement est conçu pour recueillir des informations de ce type-là. Ça offre plusieurs perspectives dans le temps. Ça peut être une procédure qui est standardisée par nature. On le verra tout à l'heure. Le problème, c'est, enfin les limites, ce sont les biais de déclaration. On sait bien que les systèmes de signalement ne sont pas exhaustifs. De façon assez générale, ils contiennent 5 à 15% des événements qui surviennent, pas plus. Donc il y a un biais dans ces signalements de déclaration. Et il y a toujours le biais de rétrospection, puisqu'évidemment, on est à nouveau sur des événements qui se sont déjà produits et une analyse rétrospective de ce qui est fait. Diapositive suivante. Là, vous voyez un type de déclaration encadré par une feuille de recueil qui est relativement ouverte, puisque là, vous avez des plages qui permettent de répondre sans questions fermées. c'est un système de signalement qui porte sur des défauts qualité sur un médicament qui a été mis en place par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Une fiche très ouverte. Voilà un exemple de système de signalement. Diapositive suivante, toujours par la même agence, une autre fiche qui concerne la matériovigilance, où vous avez beaucoup une information plus précise qui est demandée sur le dispositif, sur l'incident lui-même. Et vous avez également, ce qui me semble très intéressant, sur la partie droite, une aide au signalement, c'est-à-dire dans quel cas il faut signaler et comment il faut signaler. Ça, quand on est dans les systèmes de signalement, ces outils d'aide, d'accompagnement des professionnels pour qu'ils comprennent ce qui leur est demandé sont très utiles. Diapositive suivante. Là, je vous prends l'exemple d'un système de signalement, celui qui a été mis en place à Johns Hopkins aux États-Unis. Diapositive suivante, qui montre là le contenu de ce système de signalement, où on va voir que les informations demandées là sont plutôt sous la forme de questions fermées, ce qui permet une analyse après plus facile, mais sans doute avec moins d'informations, moins de richesse d'informations que quand on lit des questions ouvertes. Diapositive suivante. Vous voyez que là, les professionnels de santé, pour faciliter le recueil, vont cocher des cases qui permettent de savoir à peu près où on en est par rapport aux erreurs. Là, il s'agit d'erreurs médicamenteuses. Diapositive suivante. Avec donc toujours quelques plages pour répondre de façon ouverte et donner un peu plus d'informations, notamment des commentaires. Mais pour faciliter et mettre en œuvre logistiquement système d'information, le système de signalement, on est souvent amené à faire relativement, à laisser peu de place aux questions-réponses ouvertes qui prennent trop de temps aux professionnels et qui ne sont pas remplies. Diapositive suivante. Donc en résumé, j'ai terminé la session. Les méthodes de mesure pour l'analyse approfondie des causes présentent des forces et des faiblesses qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien connaître. L'analyse des réclamations. Les systèmes d'apprentissage et de signalement sont par exemple des systèmes qui sont potentiellement utiles, mais qui fourniront moins d'informations que l'observation directe ou les études de cohorte. Une autre conclusion qui est assez habituelle en gestion des risques aussi, c'est que si on veut avoir une bonne compréhension, on peut être amené à utiliser plusieurs approches. Diapositive suivante. Quelques références comme d'habitude que vous aurez le temps de regarder par ailleurs. Diapositive suivante. La diapositive suivante, c'est une diapositive que j'ai rajoutée dans une revue qui est en langue française, c'est pour ça que je l'ai mise, et qui se présente des cas cliniques d'événements indésirables avec les résultats de l'analyse approfondie des causes. Diapositive suivante. La réponse au quiz. Les entretiens peuvent être utiles pour comprendre les causes. Oui, parce qu'elles contiennent on peut utiliser des questions fermées ou ouvertes, beaucoup plus facilement que des systèmes de signalement. On peut saisir la totalité de la sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure, et elles peuvent être utilisées dans les contextes des pays en développement sans aucun problème. La question suivante, c'était laquelle n'est pas une méthode déclarative de collecte? C'est évidemment l'examen des dossiers hospitaliers. La question suivante, c'est lequel des énoncés sur l'analyse des plaintes est faux? La réponse était, les plaintes sont représentatives de l'ensemble des problèmes associés aux soins. Je l'ai dit tout à l'heure, les plaintes portent quand même souvent sur des événements qui sont les plus graves, en tout cas les moins acceptables par les patients ou leurs familles. La question 4, laquelle des méthodes peut être utile pour étudier les causes d'événements indésirables? Toutes les méthodes peuvent l'être, mais avec des degrés de performance différents. Et enfin, la dernière question, les systèmes de signalement sont pertinents pour déceler certains facteurs contributifs? La réponse est oui. Ils sont appelés souvent en système d'apprentissage et de signalement, mais ce n'est pas la meilleure méthode pour comprendre les causes d'événements indésirables. Voilà, merci beaucoup de votre attention. On va passer dans les quelques minutes qui nous restent à quelques questions. J'attends de voir apparaître devant mes yeux la liste de ces questions. Alors, une question. La première de Yeb que je salue. Bonjour, vous avez parlé de l'analyse des plaintes par les assureurs, comme la CHAM en France, effectivement, qui assure la majorité des établissements de santé. Existe-t-il un outil standardisé que les professionnels pourraient utiliser pour mieux exploiter les registres de plaintes hospitaliers? La réponse est non. est encore du domaine de la recherche. La question suivante. Dans la représentation classique en Gruyère, une place est accordée à l'environnement. N'est-ce pas une des raisons de la difficulté d'harmonisation de prise en charge des patients, de l'élaboration des standards, sachant que chaque équipe a son environnement propre? La question est très bonne et renvoie à une problématique générale qui est à quoi sert l'analyse approfondie des causes. L'analyse approfondie des causes est par nature très dépendante de la situation locale, de l'organisation locale, de l'environnement local, et donc les enseignements que l'on peut en tirer ont d'abord un intérêt local. La question suivante, le biais de rétrospection étant inévitable, est-il possible d'en déterminer un taux en vue de minimiser les causes associées? Ça, c'est une question qui est difficile. Je n'ai pas vu dans la littérature de réponse sur ce point. Je ne peux pas vous répondre. Je pense que c'est très difficile, au-delà du pourcentage, d'étudier cette question-là, puisqu'il faudrait comparer ce qui s'est passé en temps réel à ce que les personnes, rétrospectivement, vont tirer comme information. C'est un projet de recherche. Un projet de recherche, c'est vraiment très intéressant. Question suivante. Quelle est la différence principale entre les méthodes de root cause analysis classiques, comme celle de James Reason, et les méthodes modernes, dont celle de Rasmussen? Sinon, est-ce la méthode ACIMAP dont vous parlez? Oui, c'est celle-ci. La différence principale, c'est la méthode de James Reason. Vous voyez, c'est des plaques successives qui sont abordées avec une sorte de linéarité qui est attendue du fait de l'outil utilisé. Or, la réalité est beaucoup plus complexe et les méthodes modernes, entre guillemets, font beaucoup plus apparaître les interactions constantes entre les différentes plaques et aux différents temps. Question suivante. Dans la recherche de responsabilité suite à la survenue d'un événement indésirable, il est souvent difficile de trouver un coupable à cause de la mobilité des infirmiers et de la non-répartition des salles. La responsabilisation des uns et des autres face aux patients pourrait être une alternative. La difficulté est que les professionnels de santé disent souvent ne pas être disponibles pour répondre aux questionnaires. Quelles attitudes doit adopter le responsable des soins pour les amener à se remettre en cause face à la survenue d'un événement indésirable? Alors là, nous avons un commentaire et une question. On touche à la question de la culture de sécurité. La culture de sécurité et notamment l'évolution de la gestion des risques qui s'oriente vers la mise en place non pas d'une cellule de gestionnaires de risques qui serait transversale et qui ferait tout à la place des professionnels de santé. Il faut qu'on passe à des systèmes de management de la sécurité qui sont beaucoup plus responsabilisants pour les professionnels de santé, qui sont fondés sur la transparence. C'est vers ça qu'il faut aller et on peut dire qu'actuellement on est en difficulté par rapport à ça. La culture n'est pas encore celle-ci. En tout cas, je crois que le mot coupable, encore une fois, est sans doute à bannir de notre approche de gestion des risques. La question suivante, l'AMDEC, peut-il être utilisé comme méthode d'analyse des causes en milieu hospitalier? Si oui, comment? La méthode AMDEC est une méthode d'analyse a priori, et non pas une méthode d'analyse a posteriori. Donc on n'est pas dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. La question suivante, comment procéder dans une enquête type cohorte, si possible un exemple. Alors là, je vais répondre avec l'expérience que l'on a fait dans l'étude nationale que nous avions réalisée, qui était une étude nationale classique où on avait tiré au sort des établissements de santé, on allait dans les établissements, on étudiait par interview, mais on aurait pu le faire par revue de dossier, le cas de patients en essayant d'identifier des événements indésirables. Nous avions inclus un second temps, et c'est la seule étude nationale qui ait fait ça, un second temps qui consistait à, parmi les 450 événements indésirables qu'on avait identifiés dans l'étude, on avait pris des cas qui étaient représentatifs un petit peu de tous les types d'événements indésirables, et nous étions revenus dans un second temps vers les professionnels de santé en leur proposant une analyse approfondie des causes. L'intérêt de cette étude type cohorte, c'est que nous avions un panorama, on va dire, représentatif des événements indésirables et que nous pouvions tirer des informations plus globales à l'échelle d'un système de santé sur les erreurs et les facteurs contributifs les plus fréquents. Voilà, mais écoutez, il est midi pile, en tout cas en France. Merci beaucoup de votre attention et nous attendons votre participation pour remplir le questionnaire d'évaluation. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Alors, ça sera le professeur Mondial Letaïev qui sera à la commande. À très bientôt pour ma part. Au revoir.